Vous allez maintenant écouter un puissant témoignage. Oui, un témoignage fort qui peut toucher les cœurs. Notre radio, Radio FM Espoir, est en mesure de proposer à ses auditeurs de nombreux autres témoignages, encore plus édifiants. Aidez-nous à continuer ce travail divin en envoyant un chèque à l'ordre de Radio FM Espoir au 11 rue Morestin, 90 17 218 Seta Basse-Pointe. Merci d'avance et soyez bénis. Bonne écoute, que le Seigneur vous accompagne.
Mais il va nous dire tout ça, mais on va commencer par le commencement. Donc Didier, tu es d'où ça? Tu es de quelle commune?
Alors moi je suis de la commune de Fort-de-France. Donc,
de quel secteur Fort-de-France?
Du secteur de Balata. Ça fait 30 ans que mes parents ont construit là. J'ai 34 ans, j'ai eu 34 ans le mois dernier. Ah. Et puis bon ben, j'ai pas grandi là, hein. Je suis pas né là, hein. Je suis né à Cité-d'Illon, mes parents habitaient à Cité-d'Illon. Puis j'ai déménagé quand j'ai eu 5 ans avec eux où ils ont construit leur maison.
À Balata.
À Balata, voilà.
Balata réputé pour son jardin là, son jardin botanique.
Voilà. Et ben justement, un peu avant le jardin, un peu avant aussi le Sacré-Cœur de Balata que je vois que beaucoup de touristes vont visiter.
Et puis tu sais que dans le Nord Atlantique, nous, quand on veut dire quelqu'un qu'au fou, nous a dit que nous vaut Balata quoi, nous vaut Colson quoi, parce que vous avez un centre de d'hôpital psychiatrique.
Tout à fait.
T'es pas trop loin toi, tu.
Non, un peu avant sur la route, mais ça m'est arrivé souvent d'y aller à vélo, en VTT, ou à l'époque quand on était jeune à moto, on allait prendre toujours un petit bain à l'Alma.
Vous ne craignez pas d'avoir à côté de chez vous un centre psychiatrique? Ça ne fait pas peur parfois?
Non, c'est vrai qu'avant, quand j'étais plus jeune, il y avait toujours, à l'entrée du lotissement où j'habite, il y a un abri de bus. Et c'est vrai qu'il y avait toujours à l'époque un ou deux fous, entre guillemets, parce que ouais, le mot fou aujourd'hui...
N'est démodé.
Voilà, je l'emploie avec toujours des guillemets.
Oui.
Et... donc oui, ça nous faisait. Moi, ça me faisait plutôt rire.
Ah, oui.
Je sais que mes parents, ça les inquiétait. Faites attention. N'allez pas jouer à l'entrée du lotissement.
Il y a des fous dans les parages, tout ça.
Voilà.
Donc maintenant, on dit qu'ils sont des gens qui ont des petits soucis, des psychopathes. Mais il y a de très beaux noms pour décrire quelqu'un qui est fou. Mais de l'autre temps, on disait qu'il y avait des fous dans les parages.
Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné sa définition de la folie. Depuis, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Il me dit. Il y a un monde depuis un monde qui a déshabillé ou bien qui a pas les fonds à la ria, qui a dit il fou. Mais pour moi la folie c'est faire les mêmes erreurs et puis ça t'en a des résultats différents. C'est ça un bouc fou. C'est un bouc qui a fait les mêmes erreurs et puis qui attend quand il y a des résultats différents.
Ah
c'est
bon?
Vrai que depuis que j'ai entendu ça, ma vision d'un fou elle-même a changé puisque selon définition ta, moi-même t'es fou.
Ah ouais, au moins tu l'as dit franchement. Donc est-ce que tu as été quel genre de famille? Est-ce que tu as des frères, tu as des sœurs?
Eh ben oui, j'ai un jeune frère. Ça fait longtemps hein, que je ne dis plus un petit frère, que je dis un frère. Il a 2 ans de moins que moi. Qui vit pas, il vit plus ici, mais on a grandi ensemble. C'est vrai que j'ai une mère qui a travaillé dans l'éducation nationale, qui est à la retraite. Un père qui a passé toute une carrière dans la banque. Donc on peut dire une famille moyenne. Moi, j'ai envie de dire souvent, les gens ont l'habitude de classer les familles en CSP, en catégorie socio-professionnelle. Donc on va dire que ma famille...
Une famille moyenne, quoi.
Une famille moyenne, voilà. C'est vrai que je n'ai pas manqué de beaucoup de choses sur le plan matériel, ni mon frère. On a eu droit à plein de choses, aux voyages, à chaque vacances, aux jouets. Bon, des fois il y avait tu auras si tu ramènes un tableau d'honneur, ou tu auras si. Et comme moi, je ramenais pas toujours un tableau d'honneur.
Ah ouais.
Mais il fallait que j'ai ce que j'ai demandé. Donc je crois que très tôt, malgré cette famille que j'avais autour de moi, j'ai très rapidement, très tôt appris à devenir manipulateur. Et a appris à détourner un peu les choses pour arriver à mes fins.
À tricher un peu, non?
Ah ben c'est le mot, hein, à tricher. Moi je me souviens, la planche à voile je la voulais, donc je me souviens avoir falsifié un bulletin scolaire, à mettre tableau d'honneur dessus, le truc était écrit en gros avec un indélébile, ça avait bavé. Donc en plus d'être manipulateur, quand c'était flagrant que c'était moi qui l'avais fait, je suis.
Et tes parents ont emballé ça?
Mais non, ils ont pas avalé ça. Mais moi, j'étais, d'après moi, très convaincant. Donc, j'ai juré, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Aujourd'hui, il y a longtemps que j'avais oublié ça. C'est en parlant là avec toi que ça me revient. Et voilà, donc j'ai grandi avec certains comportements, mais j'avais des comportements à l'extérieur de la maison. Parce qu'il faut dire que l'éducation était très stricte.
À la maison.
À la maison.
Mais, donc, mais est-ce que tes deux parents vivaient ensemble, ta mère et ton père?
Oui, mes deux parents.
Mariés. Couple exemplaire.
Exemplaire, c'est un bien grand mot. Ce soir, j'ai plutôt envie de parler de moi.
Ah ouais.
Donc, je ne parlerai pas d'eux. Vous allez peut-être comprendre à travers.
Ouais.
Mais j'ai beaucoup de respect pour eux.
Ah oui.
Beaucoup de respect pour ce qu'ils sont.
Ah oui.
Beaucoup de respect pour ce qu'ils m'ont donné.
Ah oui.
Et donc, par respect pour eux, je ne parlerai que de moi. Et puis, je pense que je suis convaincu qu'il n'y a qu'une personne pour parler d'elle. Quoi. Le mieux pour parler d'eux, ça aurait été qu'ils soient présents.
Qu'ils soient présents, d'accord.
Voilà.
Sûr.
Donc, moi, ce que je peux dire, c'est pas la façon dont ils m'ont éduqué, mais c'est la façon dont moi, j'ai vécu ça. Parce que souvent, il y a une différence entre ce que les parents font et la façon dont c'était interprété, ce geste-là est interprété par les enfants.
Par la personne.
Donc apparemment, puisque très vite j'ai compris que j'avais des parents qui m'aimaient, mais apparemment j'avais une façon d'interpréter leur amour assez bizarre. Donc j'avais plutôt l'impression qu'ils me bridaient, donc les petits voisins jouaient pendant les grandes vacances à vélo devant la maison.
À quel âge tu as fait ces constats? À quel âge tu as fait ces constats? 18 ans, 15 ans, 16 ans?
Ah non.
Avant ça?
Depuis 8 ans.
Ah, depuis 8 ans?
Depuis 8 ans,
tu as assez conscient des choses quand même. Tu as assez
depuis 8 ans, j'ai vécu avec ces choses-là. Pourquoi? Parce que, bon, souvent aussi en Martinique, j'aime pas dire, il y a des gens qui disent des parents alcooliques, tout ça. Non, j'avais un père, ça lui arrivait de boire de temps en temps.
Un petit penche-corps comme tout le monde, comme tout bon Martiniquais. On dirait pas ça comme ça.
Et ça ne me gênait pas moi.
Ah oui.
Mais ça gênait ma mère. Ça lui arrivait de faire une ou deux fois les accidents de moto.
Parce qu'il avait une moto.
Parce qu'il avait aussi une moto, il avait une voiture et une moto. Et c'est vrai que quand il partait avec la moto et qu'on voyait la nuit tomber, ma mère était inquiète. Ah. Et cette inquiétude-là, elle nous la transmettait.
Oui.
Donc moi, depuis mes 7-8 ans, je vivais avec ça. Et dès que j'entendais la moto rentrer, quelle que soit l'heure, j'étais rassuré. Parce que j'ai connu donner à papa à manger du yaourt parce qu'il a fait un accident, il s'est cassé la mâchoire, il s'est cassé les phalanges des deux mains.
Ah ouais.
J'ai connu ça aussi. Donc, c'est vrai que j'étais rassuré, mais on peut pas dire que il m'accordait les samedis, j'ai eu plein de loisirs, à part le judo, la planche à voile, le modélisme, avion télécommandé, voiture radio commandée. J'avais vraiment un père présent les week-ends. Il passait vraiment à mes caprices après un peu plus grand, 14, 15 ans. Je dis caprice, c'est un bien grand mot, à mes désirs. Ouais. J'ai eu droit à la moto, j'ai eu droit à
planche à voile, tout ça.
À toutes ces choses, oui. On peut dire quelque part que... voilà, mais c'est là le hic. C'est que beaucoup de mes voisins m'enviaient. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi ils m'enviaient. Parce qu'ils regardaient les choses de l'extérieur.
Mais est-ce que tu te comparais pas un petit prince dans tout ça?
C'est très, 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 très particulier. Parce qu'à côté de ça, quand par exemple mes voisins avaient le droit de jouer au vélo, DJ, quelqu'un de bien éduqué, entre midi et 4 heures, il reste chez ses parents, il va pas déranger les parents. Quand vous êtes quand tu es avec les copains, vous faites du bruit dans le lotissement, vous empêchez aux gens de dormir. Voilà, donc entre midi et 4 heures, voilà. Autant j'allais souvent à la maison des jouets, c'était chez Rigny ou Michel Cher, acheter mes jouets, autant aussi à chaque fois que j'avais fini de couper toutes les lanières du martinet, j'allais en choisir un autre aussi à la maison des jouets.
Oui.
Donc j'ai grandi avec ce paradoxe.
Oui.
Les gens voyaient de l'extérieur. Et moi aussi, à l'extérieur, j'étais quelqu'un d'autre.
Oui.
Et à l'intérieur, j'étais doux comme un agneau.
Oui.
Mais pour arriver vers les 12, 13 ans, où j'ai commencé, par exemple, mon père jetait un mégot de cigarette dans le jardin, je descendais fumer avec mon père, avec mon frère, on récupérait le mégot. Voilà. Ça a duré cette complicité avec lui jusqu'à à peu près mes 14, 15 ans.
Et ton père était au courant de ça? Était au courant que tu faisais ça?
Parce qu'après j'ai acheté des paquets, donc ça lui est arrivé de tomber une fois sur un paquet de cigarettes, malgré je prenais soin de me brosser les dents après, après chaque cigarette. Il avait remarqué ça, il est tombé aussi comme tout adolescent, enfin je veux pas dire tout adolescent. Mais mes voisins et moi, souvent, quand j'étais en troisième, il y en avait qui étaient en première, j'étais toujours le plus jeune de la bande. Ça nous arrivait des fois de ne pas aller à l'école les après-midi, de choisir d'aller chez un tel parce que les parents, on était sûr, ils n'étaient pas là. On commençait à regarder nos premiers films porno. Uh-huh. On commençait
à quel âge?
Moi, j'avais 14-15 ans. Uh-huh. C'était l'histoire des premiers joints. Uh-huh. Et justement, ma relation avec mon frère, on était très complices jusqu'à ce 1er juin. Ouais. Un soir, on avait l'habitude de fumer des cigarettes.
Je rappelle pour ceux qui nous écoutent, juin pour toi, c'est la marijuana ou...
Oui, juin, c'est la marijuana parce D'accord. que moi, ma rencontre avec la drogue a commencé par la marijuana.
D'accord. Voilà. Ça a commencé par la marijuana, hein, qu'on soit bien précis.
Comment?
Ça a commencé par la marijuana.
Oui, ça a commencé D'accord. par la marijuana. Aujourd'hui, il y a quelque chose que je sais. Hein? C'est que c'est vrai que tous ceux qui fument de la marijuana aujourd'hui ne vont pas forcément
aller vers le crack.
Aller vers le crack. Ouais. Mais tous ceux qui sont au crack aujourd'hui sont d'abord passés par la marijuana. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un constat que j'ai pu faire.
Ouais.
Et pas le seul. Vous allez voir dans mon témoignage, il y a un endroit où je suis arrivé où j'ai pu communiquer avec beaucoup d'autres personnes qui avaient le même problème que moi. Donc à cette époque, pour moi, il n'y avait pas de problème. Les seuls problèmes, c'était que mes parents me bridaient trop. Que selon moi, qu'il ne me comprenait pas assez. Ça m'est arrivé de faire l'école buissonnière. Ça m'est arrivé, par exemple, j'étais un enfant. Vas-y, j'avais l'impression d'être incompris en fait. Donc c'est pour ça que quand je voulais d'un chien, oui, mais Didier, tu es trop jeune pour t'occuper d'un chien. J'ai fait du chantage.
Oui.
Je vais pas à l'école si j'ai pas de chien. Donc par exemple, ça a été certains de mes comportements. Donc. C'est vrai que j'étais manipulateur beaucoup pour arriver à...
Donc, un petit portable qui sonne dans
le coin. Voilà. Mm-hmm. Pour arriver à mes fins. Et puis, je me suis rendu compte.
Continuez, oui.
Oui. Alors, donc, je disais que ce 1er juin, j'avais l'habitude de fumer des cigarettes avec mon frère. Une cigarette le soir... On sortait sur le balcon de ma chambre et puis on allumait la cigarette, on la fumait à deux. Et puis un jour, je suis rentré et puis je lui ai dit, ah, et on veut ce soir, on va fumer quelque chose là, ça n'a rien à voir avec la cigarette. Mmh. Mais c'est quoi? Chut, 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 quand papa et maman vont dormir ce soir, je vais te montrer. Alors, finalement, papa et maman ont fini par dormir et puis je lui dis, voilà, c'est ça. Il me dit, mais c'est quoi ça? Je lui dis, c'est un joint. Il me dit, mais c'est de la drogue, c'est du cannabis. Et je lui dis, ben oui. Ah ben DJ, c'est ça qu'ils nous ont dit à l'école, qu'on commence par une cigarette et puis qu'après on fume du cannabis. Tout ça DJ, regarde tout ça d'affiches qui a collé à l'école, cette pensée dangereuse, la marijuana, tout ça.
Ah ouais.
Oh, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ah, j'aurais jamais dû dire ça à monsieur.
Mais est-ce que t'es un peu rapporteur, non?
Il était rapporteur, hein, il me faisait toujours du chantage, donc on était toujours en négociation.
Ah ouais.
Mais là, il n'en a jamais parlé à mes parents.
Uh-huh.
Il n'en a jamais parlé, mais depuis là, notre lien a été, j'ai envie de dire, quelque peu brisé. Parce qu'il a pris son chemin, et comme ça lui déplaisait.
L'abstinence,
c'est un mot que j'ai connu après.
D'accord, ok.
Donc, à cette époque-là, je ne parlais pas encore d'abstinence.
Uh-huh.
Pour moi, les mecs qui sortaient avec les filles avec lesquelles je voulais sortir, fumaient de la marijuana.
Ah ouais.
Donc, quelque part, il y avait quelque chose
dans ça. En fait, le mode.
Il y avait quelque chose dans ça que je voulais.
Oui.
Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à fumer, j'ai eu l'impression d'être un peu plus fort.
Beaucoup plus d'assurance.
Voilà, beaucoup plus.
Une impression, tu dis, hein.
Ah oui, toujours dans l'impression.
Mm-hmm.
Bon, après, donc, je fumais régulièrement. Voilà, une scolarité assez bouleversée. J'ai toujours été brillant élève, à condition que je finisse ma scolarité. Donc, ça a toujours été ça. C'est vrai que très tôt, l'école m'a déplu. Je me souviens qu'à 17 ans, je disais à mes parents que je veux quitter l'école. J'ai envie de... Mais Didier, tu vas faire quoi? À l'époque, à 17 ans, ma passion, c'était... J'aimais bien les scooters de mer. J'ai dit, ben, je vais aller louer des scooters de mer sur des plages. Donc voilà, j'avais pas vraiment envie de l'école, tout ça. Donc, j'ai été exclu du système public. Je suis allé en école privée, à Paris d'ailleurs. Uh-huh. Où, donc après avoir fréquenté toute une bande, par exemple, on était dans un collège pas loin de Didier, de Cluny d'ailleurs. Et On commençait à fumer nos joints, on était toute une bande. Et puis vers 18-19 ans, on s'est retrouvés, alors que moi, j'étais à l'école à Paris. On s'est retrouvés pendant le mois de décembre, ils sont tous rentrés. Et puis ils m'ont dit, ah, DJ Nian, ben là, qui rentre Martinique, DJ. Nous, on est des petits blagues que nous avons fait, et puis des petits tafs que nous avons pété. Ah, alors qu'ils rentrent, qu'ils goûtent ça, qu'ils comprennent. Les gars, qui ça? Ben, crac. Les gars, ils sont tombés ensemble avec, mais nous, qui sont gardés nous là. Regardez-nous, nous, bien, là, que, ouais, ça, moun, qu'a dit ça.
Ah,
mais nous,
oui.
Nous, nous, tête, nous. Les gars, qu'a tout ça, bouc, nous, t'es qu'à, ouais, cherchant qu'on a là, nous, t'es qu'à mettre, yo, à la fête. Mais, vous êtes oubliés, nous, t'as d'entrer Bob Marley, crac, c'est ben, vampire, c'est ben, jab.
Ah,
mais
oui.
Non, ça, c'est les nous pas savent. Puis, ils m'ont mis ça dans la tête. Deux semaines après, alors que l'école a repris, je rentre en Martinique, surprise, hein, la veille, j'appelle mes parents pour leur dire je rentre.
Mais tu avais les moyens de rentrer comme ça, tout seul comme ça?
C'est vrai que j'ai jonglé avec l'argent de poche. Hein.
Tu as fait quoi?
Mais j'ai jonglé avec l'argent de poche.
Oui.
C'est vrai que jusqu'à cet âge-là, et bon, j'ai pas de regrets à avoir. Hein,
ah oui.
Parce que j'en ai gâché beaucoup, mais... Comme je vous ai dit, je n'ai pas souffert matériellement.
Oui, oui.
Je n'ai pas souffert matériellement. Donc, oui, j'avais les moyens, puisque mon père, de un, a fait une carrière à la banque. Donc,
oui.
Avait des très bons liens avec la banque. Et puis, j'étais déjà assez fin. Hein, donc, je savais parler à la responsable d'agence.
Ah,
en lui disant, oui, mais de toutes les façons, s'il y a un problème en interne. En plus, ayant moi-même travaillé à la banque,
ah bon?
J'avais un numéro de compte qui est un numéro de compte qui commence par trois chiffres, qui étaient des chiffres destinés aux employés de banque. Uh-huh. Donc quelque part, c'est vrai qu'en plus, il y avait certaines facilités sur les découverts. Voilà que, comme je vous ai dit, de temps en temps, papa ou maman
recouvraient.
Voilà. Donc j'ai pris le billet, je suis rentré, et puis deux choses qui me manquaient. Ma petite amie, et puis cette folle envie que mes amis avaient suscité en moi de connaître le crack. Alors je suis arrivé, le lendemain, c'était prévu, une cotisation. La veille de ce jour-là, je ne savais pas que j'étais en train de préparer un grand changement dans ma vie. Après, donc, c'est après que j'ai compris ce que cette drogue-là m'a procuré et pourquoi je suis devenu dépendant.
Oui.
Mais au début, c'était pour connaître. C'était cette... On dit chercher le buzz, cette sensation que j'ai toujours voulu chercher à moto, cette sensation de vitesse en planche à voile.
Mais
c'était une recherche de sensation mêlée à une grande curiosité et puis cette envie d'adolescent immature de briser les interdits. C'était d'abord ça.
Une appétit du risque, non, un peu.
Voilà, c'était d'abord ça.
Ah ouais.
Alors, le lendemain, je me souviens, c'était sur la place de Schœlcher, à côté du centre nautique de Schœlcher, hein,
ouais.
Ça j'oublierai jamais.
Mm-hmm.
Avec mes deux amis, c'était sur une bouteille, ils m'ont préparé ça, clac. Mais aspire. Donc j'avais peur d'aspirer, puisque crac, normalement c'est un truc, c'est dangereux. Alors j'ai aspiré un petit peu. Ah mais non, tu sais pas faire ça, je vais te montrer. Et puis je vois qu'ils aspirent jusqu'à plus de fumée. Alors je l'ai fait. Ça m'a donné une sensation, bon, j'en parle, mais il faut que je recherche la sensation de puissance.
Oui.
Mon premier réflexe, quand j'ai eu la sensation, ça a été, quoi? C'est ça le crack? Mais c'est faible.
Ah bon?
Et à partir de là, je suis rentré dans une spirale où, quand moi je pensais que j'avais l'affaire, c'est l'affaire qui m'avait déjà, donc, le crack m'avait déjà
possédé.
Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de le gérer et je le gérais. Ça m'empêchait pas de sortir, ça m'empêchait pas de parler. Par la suite, j'ai été directeur régional d'une petite compagnie ici. J'ai commencé à travailler très tôt, à 21 ans, donc d'une petite compagnie.
Compagnie de quoi?
J'étais dans l'épargne et le crédit.
Oui.
Donc j'étais d'abord. Enfin, j'ai souvent eu aussi beaucoup de chance dans ma vie, ce qui non plus ne m'a pas toujours aidé.
Ouais.
Parce que je savais que j'allais toujours retomber sur mes pattes.
Mm-hmm.
Donc, m'en t'es capable de pète n'importe qui ça, puisque m'en t'es savent que demain, la vie a t'es créé par moi. La vie a t'es créé mettre moi.
Entre la porte t'es couvert.
Voilà. Donc, quelque part, c'est avec cette inconscience-là. que j'ai fonctionné. Donc ça m'empêchait pas d'aller travailler. Des fois, quand j'étais en réunion avec, j'étais le plus jeune. Ah oui, et puis mon orgueil, ça a commencé à nourrir mon orgueil.
Oui.
Quand qu'a metté mon dans la rue, caché chez Timosso Rochater, moi-même, mon directeur régional, mon qu'a foutu bon crack en tête, moi. Moi, 13 commerciaux, assistante commerciale, assistante de direction, mon qu'a fait des réunions.
Sous des ordres.
Yo, pas quand même, moi, comment fini, fait des taf crack, là, avant mon palais, ben, yo. Délai entre deux clients, et puis, moment, l'estomac, moi, qu'a gonflé, délai. En plus, ça m'est arrivé de financer une ou deux mairies. Donc, là, l'émission, les maîtres, t'es qu'à venir devant moi, et puis t'es qu'à dire, moi, oui, mon besoin de 100 millions, c'est pour financer tel projet, là, en mairie, bagaille, comme ça. T'es qu'à dire, gars, ça. Les mouns n'ont pas ni en l'idée de dire ça, moi, qu'à faire, regardez, yo, là, qu'à pleurer, en bien, moi. Donc, c'est venu nourrir beaucoup d'orgueil, beaucoup de vanité. Bien sûr, à cette époque, il y avait les femmes, mais j'avais une façon de parler.
Une assurance, quoi, une assurance.
Oui, par exemple.
Une flexibilité dans les paroles.
Un toxicomane m'abordait dans la rue. Bah, un diffant. Et je le rejetais violemment. Il y avait des gens qui, à côté de moi, me disaient, oui, mais tu fais la même chose. Ça m'arrivait de leur dire, oui, mais à présent, moi, pas quand même prendre matinique, moi, quand prendre un billet d'avion, là, mon besoin consommé pour aller cette ici. Et c'est vrai que j'ai beaucoup fait ça.
C'est-à-dire?
Avec un petit groupe d'amis. Donc, oui. Des gens aussi qui, socialement.
Étaient assez aisés.
Voilà. Donc, c'est pour ça que moi, la première des choses que j'ai envie de dire, hein, parce qu'un témoignage, ça sert toujours à quelque chose. Je ne témoigne pas pour me glorifier, parce qu'il n'y a rien de glorieux dans ce que j'ai fait. Mais surtout que ça touche tous les milieux.
Oui.
J'ai consommé avec tous les milieux.
Oui.
Donc, voilà un peu. Comment j'ai commencé.
Mais tu dis avec des amis, tu partais à Sainte-Lucie.
Oui, on partait à Sainte-Lucie en week-end, soit on louait un catamaran, soit on partait avec en avion, on allait, puis on savait que on aimait bien les festivals de jazz, soi-disant, c'était le bon alibi. On aimait bien partir au carnaval, à Pâques, dès qu'il y avait une petite vacance. Voilà.
Mais est-ce que tes parents étaient au courant de cette vie que tu menais? Est-ce que
alors, quelque part, le piège dans lequel j'étais, c'est que je sauvais les apparences. Et puis, il faut savoir quelque chose, c'est que le crack, c'est piège. C'est un piège parce qu'au début, le crack m'a donné l'impression d'être tout puissant et de le contrôler. Donc, quelque part, ça ne se voyait ni physiquement. Le crack m'apportait à cette époque, d'après moi. Il ne me prenait rien. Donc, j'avais l'impression d'être plus beau, plus grand, plus fort, voilà quoi. Donc,
mais ça coûte assez cher, c'est une fortune, ça, c'est beaucoup d'argent dépensé.
C'est beaucoup d'argent dépensé, c'est vrai. Comparé à d'autres drogues, j'ai envie de dire non, comparé à d'autres, parce qu'après j'ai connu la consommation dans d'autres pays de la planète, toujours de crack. Ouais. Donc comparé à d'autres pays, autant c'est beaucoup moins cher qu'à Sainte-Lucie. Autant à Sainte-Lucie est beaucoup moins cher qu'en Martinique. Autant des pays comme le Canada, cette drogue-là est beaucoup plus chère qu'ici en Martinique. Donc, oui, c'est cher. Mais en fait, le travail du crack, c'est toujours en avoir et toujours se donner les moyens de consommer. Il y a qu'après que j'ai compris que ces performances que je donnais au travail, ce n'était que pour répondre à mon besoin de crack. Je n'étais pas encore dépendant dans le sens où physiquement, j'étais déjà dépendant, mais pas encore physiquement atteint, pas encore mentalement atteint, pas encore spirituellement atteint. Ça faisait longtemps que j'étais spirituellement atteint. C'était le désert, ma vie spirituelle. Pour moi, la toute-puissance, c'est moi qui l'avais, et puis personne d'autre, en tous les cas, pas
l'illusion,
quelqu'un.
Quoi, toujours l'illusion.
Voilà, c'était mes convictions. Et j'ai fonctionné avec tout ça. Et voilà, donc c'est clair que bon, pour pouvoir aller consommer, prendre un billet d'avion, louer un hôtel à Sainte-Lucie, tout ça, oui, ça coûtait. Donc, je motivais mes commerciaux, j'étais vraiment performant.
Ouais.
Donc, c'est ça le système du début. Jusqu'au jour où cette drogue-là a commencé à un peu me faire perdre les pédales. Donc, j'ai déconnecté de la réalité.
C'est-à-dire?
Trop d'orgueil, trop de vanité, je me suis pris pour ce que j'étais pas. J'ai démissionné de mon travail. J'ai dit, je suis trop bon, il faut qu'il me paye le double.
Ah bon?
J'ai commencé à avoir ce genre d'attitude.
Ouais.
Et le pire, c'est que ça m'a pas aidé parce que ça a marché. J'ai démissionné 3 mois après, il a refait appel à moi en me donnant ce que je voulais.
Le double? Quasiment le double.
Quasiment le double. En fait, plus de participation sur le chiffre d'affaires que à l'époque que je disais que je produisais, alors que c'était les commerciaux. Déjà là, je n'avais.
Exploiter le travail des autres.
Bon, exploiter le travail des autres. Je faisais mon travail. Ouais. Mon travail, c'était de les motiver.
D'accord. Okay.
Voilà. Et mais j'étais. Aujourd'hui, je suis pas en paix avec ça.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas.
T'enorgueillir.
Voilà. Et puis revivre les mêmes choses comme ça.
Ouais.
Et donc. Au bout d'un moment, j'ai commencé à perdre les pédales. J'ai commencé à ne plus être là. Puis une fois, ce qui m'est arrivé, je me suis enfermé dans mon bureau. J'ai un ami, entre guillemets, de l'époque, qui est venu avec du crack. On s'est enfermé dans le bureau. J'ai consommé. Et puis, je ne pouvais plus sortir du bureau parce que je vivais de la paranoïa,
ouais.
De l'angoisse, de la peur. J'avais envie que personne ne me voie. Et ce jour-là, j'avais des rendez-vous qui m'attendaient de l'autre côté de la porte. C'était une vitre opaque.
Oui.
Je ne pouvais même pas sortir. J'ai fermé la clé, j'ai appelé la secrétaire et puis je lui ai dit « Vote ce que tu veux, mais je ne peux pas sortir. » Il était midi. J'ai dû attendre 17h30 que tout le monde soit parti de la société pour pouvoir quitter les lieux.
Tu es devenu paranoïaque là ?
Paranoïaque. Paranoïaque.
La peur, les bruits qui s'amplifient, tout ça ?
Voilà, les bruits qui s'amplifient, la sensation qu'il y a des micros, que je suis observé, qu'on me surveille. Voilà, c'est une sensation terrible. Alors, et puis j'ai commencé maintenant, au début, quand je consommais, j'allais voir les gens, j'allais vers les gens, j'allais en discothèque, j'allais n'importe où, j'allais croiser n'importe qui. Après, j'ai commencé à m'isoler dans ma consommation, donc je ne fréquentais que ceux qui consommaient avec moi.
Oui.
Et puis, je pouvais avoir, alors j'ai perdu ma première petite amie, que j'ai vraiment aimée comme ça, je m'en souviens, c'était en 93. Et
tu as dit ce qu'on appelle un limbé.
Voilà. Et là, ma consommation, elle a augmenté. C'est clair que après, j'ai compris l'effet du crack. L'effet du crack sur moi, avant d'arriver là, je vais jusqu'au bout. Pendant 7 ans, j'ai consommé de plus en plus.
De plus en plus.
La descente aux enfers. Je maigrissais. Chaque fois que j'avais un projet, j'ai monté des entreprises. Ça durait pas.
Ça ne tenait pas.
J'étais pas réglo. J'ai pas volé, mais j'arnaquais. Je n'ai pas braqué, mais j'ai détourné.
Oui.
Voilà. Donc je suis pas meilleur qu'un autre. Hein.
Oui.
Mais moi à cette époque je disais ah oui mais t'as qu'à voler pour y consommer. Moi mon pas qu'à voler. C'était mieux de faire un détournement. Selon moi c'était quelque chose de plus propre.
Oui.
Avec ma conscience en tout cas. Et jusqu'au jour où, en 2000,
oui,
j'en ai eu marre de cette vie-là. Enfin, depuis 98, j'en ai marre.
Ouais.
Depuis 98, tous les soirs, quand je rentre,
ouais,
je me dis, c'est la dernière fois.
Toi, tu consommes.
Que je consomme.
Oui.
Et puis, le lendemain, je me réveille, la première des choses à laquelle je pense, c'est aller consommer.
Ouais.
Là, j'ai commencé à avoir peur.
Hein? L'esclavage, quoi.
Voilà. Là, j'ai pris ma Bible pour la première fois. Pourquoi ? Parce que quand je rentrais, des fois, après 2 jours, je rentrais à 3h du matin, j'étais tellement sous pression que j'arrivais pas à dormir.
Là, chez les parents ou bien
chez mes parents.
Oui.
Et ma chambre est en bas. Est en bas, la chambre des parents est en haut. Et je lisais la Bible, et puis il y a un passage de Job. Je crois que c'est là la première fois que j'ai cru qu'un jour, j'aurais pu me sortir de cette situation-là. C'est quand j'ai lu ce qui est arrivé à Job, je me suis dit, ah non. Si ça arrive, monsieur, c'est en épreuve que mon Dieu a fait moi passer. Je n'avais pas d'autre solution que de croire. Mais
ça t'a un peu encouragé. Alors.
Ça m'a encouragé, mais pas longtemps. Pas longtemps parce que je me souviens avoir injurié Dieu après 2 ou 3 semaines. Si tu existais, tu ne m'aurais pas fait subir ça. C'est moi qui me suis engagé dans cette voie-là, mais... Dans la Bible, il est dit, mon peuple périt par manque de connaissances.
Ah oui.
Et je me suis engagé dans cette voie-là, certes, par manque de connaissances. Car si je savais où ça pouvait m'emmener, je te garantis que je ne me serais pas engagé dans cette voie-là.
Oui.
Donc, j'ai quand même, moi qui étais si fort et si orgueilleux.
Si prétentieux,
prétentieux, c'est exactement le mot.
L'homme intelligent, l'homme
qui crache. Je me suis retrouvé face à ma faiblesse.
Oui.
Quand Clac a déraillé moi, il me tue à petit feu.
Ah.
Je pesais 12 kilos de moins qu'aujourd'hui.
Oui.
Et puis, impossible d'arrêter malgré toute ma volonté. En boucle si fort. Donc ça m'a encore beaucoup plus cassé. Parce que je n'avais même plus confiance en moi.
Oui.
Et qu'est-ce que j'ai fait un soir? Je me suis procuré une arme et je me suis dit ce soir je vais me tuer. Un peu avant, un peu après le carnaval 2000, de l'année 2000. Un revolver. J'ai mis sur ma tempe et puis je ne suis pas arrivé à tirer. Là j'ai vraiment eu peur. Je suis monté dans la chambre de mes parents et j'ai frappé. Puis j'ai dit papa, maman, je suis un toxicomane. Ça fait longtemps que j'ai envie de m'en sortir. Et puis j'arrive pas. C'est la première fois que j'ai avoué ça à mes parents. Je suppose qu'ils s'en doutaient. Hein. Il suffisait de voir, mais je niais tout le temps.
Dans ton état, tout ça.
Voilà. Donc.
Je pense que tes parents ont été touchés par ça, non? Cette déclaration.
Je ne sais. Mes parents ont été beaucoup touchés, blessés par mon mode de vie. Ça, c'est clair. Je ne me souviens pas vraiment de cette déclaration. Je me souviens de tout ce qui vient après. Et tout ce qui vient après, c'est une association qui existait, qui est une association qui s'appelle Promesse de Vie, qui a été créée par
un toxicomane aussi, je crois.
Oui, qui a les mêmes problèmes que moi, qui a eu les mêmes problèmes que moi j'avais, et qui vivait l'abstinence. Donc pourquoi l'abstinence? Parce que quand je suis allé le rencontrer, il m'a dit, Didier, ce qui t'arrive là, c'est pas grave. J'ai vécu pareil, même pire, et à rien pour qu'on arrive au vivant. Donc, et puis en monde vivant, ou créouin, c'est un jour à la fois. Si juste pour aujourd'hui tu consommes pas, c'est une grande victoire. Et cet ami, parce que c'est un ami aujourd'hui, cet ami m'a parlé de Dieu. Bon, moi, j'ai rencontré Dieu d'abord au catéchisme. J'ai eu un premier problème avec le catholicisme, cette religion, c'est comme ça que je l'appelle. C'est par là hein, que j'ai commencé à croire, mais j'ai pas fait ma... Il y a première communion et puis il y a deuxième. Et j'ai pas fait la deuxième parce que le prêtre m'avait trouvé immature. Donc j'étais fâché avec toutes ces histoires d'église. Et il n'y a qu'en 2000 que j'ai rencontré dans cette communauté de l'amour. Mais de l'amour gratuit. De l'amour sans avoir en retour, quoi. Pas comme les copains qui m'aimaient parce qu'ils te savent que week-end, non, nous t'es qu'à aller Sainte-Lucie et puis les autres t'es qu'à dire, bon, ben, DJ, mon pète carte bleu moins, on t'es qu'à dire, oh, pas fun. Pas cet amour-là. Et je suis parti en thérapie. Je suis parti, première thérapie de 3 mois. Alors, entre-temps, j'étais RMiste.
Oui.
Donc, mais j'ai fait ma demande avant de partir. Et ils avaient eu 3 mois de retard à me donner. Donc, en fait, j'ai eu 6 mois de RMI qui devaient tomber 1 mois après que je sois parti. Donc, mes parents ont préfinancé. Ils ont tout financé parce que quand je suis revenu, ils m'ont dit, DJ, garde ton argent. Donc, oui, mes parents ont financé cette thérapie. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. D'abord, c'est une thérapie comportementale. J'ai appris mes comportements. Donc, dans cette thérapie, je me suis retrouvé, on était 12 garçons, de gens de tous milieux. Donc, je me suis retrouvé avec des gens qui avaient été violés par leur père, des garçons qui avaient été violés par leur père, d'autres qui venaient de sortir de prison, et je me reconnaissais pas à travers eux. Donc, la première des choses que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai dit, ah ouais, c'est comme ça que vous me voyez? J'ai appelé l'association ici, j'ai dit, c'est comme ça que vous me voyez?
Promesse de vie.
Oui, promesse de vie. C'est comme ça que vous me voyez? Didier, juste un peu d'humilité, Didier. Avant de partir, je t'ai dit, ça prend de l'humilité, de l'ouverture d'esprit et de la bonne volonté, Didier. Peut-être que t'es différent d'eux, mais reste ouvert, Didier. Si t'es là, c'est qu'il y a une bonne raison, Didier. N'oublie pas. Et puis donc à travers des ateliers psychologiques, thérapeutiques, où on a fait l'enfance en soi, où j'ai revécu mon enfance, où j'ai appris que j'étais quelqu'un d'orgueilleux, de malhonnête, de menteur, de manipulateur, d'impatient. Quand je me suis découvert comme ça, heureusement que la première des choses qui m'avait appris, c'est d'être honnête avec moi-même. Ça m'a permis d'accepter que, en effet, j'étais comme ça. Donc oui, je suis tombé des nues parce que
j'étais toxicomane, c'était à cause de tout ce qui m'était arrivé, c'était à cause de tout le monde. Oui, mais t'as qu'à mentir. Oui, mais t'as qu'à voler moi. Oui, mais t'as qu'à boire mon gaz. Oui, mais t'as qu'à violent. Et je me prenais vraiment pour un
victime, une victime.
Et j'ai découvert ça. Alors, c'est avec beaucoup de pleurs hein, qu'on accepte qu'on est comme ça. Parce que accepter qu'on est comme ça, ça veut dire qu'il y a plein de gens qu'on avait envoyés promener alors qu'ils avaient raison. Que parce que quand je mentais, j'étais moi-même le premier convaincu de mon mensonge. Donc, je me mentais d'abord à moi-même. Et quelqu'un m'aurait dit, arrête, tu mens, j'aurais été prêt à la frapper.
À bondir,
tout à fait. Et donc, voilà. Et ces thérapeutes, tous les thérapeutes dans cette maison de thérapie sont des toxicomanes abstinents. Parce que cette méthode, c'est la méthode des narcotiques anonymes, qui est une méthode selon 12 étapes. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils disent que c'est un programme spirituel. Ils disent que c'est un programme spirituel, mais un programme ouvert à tout le monde. Ouais. Qu'on soit juif, qu'on soit catholique, qu'on soit adventiste, qu'on soit
tous les pays qu'il y a.
Arabe. Pourquoi ? Parce que la première étape, c'est nous avons admis que nous étions impuissants devant notre dépendance et que nous avions perdu
le contrôle,
la maîtrise de notre vie. C'est clair que tant qu'on n'en est pas là, de toutes les façons, on ne va pas frapper à une porte pour dire j'ai besoin d'aide. Donc le fait d'aller frapper à une porte et avoir besoin d'aide, c'est admettre que on a un problème qui est plus fort que nous et que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à le résoudre. Et la deuxième étape, elle dit nous avons cru qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Alors, comme ils sont très ouverts, il y a des gens pour qui la puissance supérieure, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'autres pour qui c'est une grand-mère qui est décédée. D'autres pour qui c'est un arbre. Et c'est là que le programme reste très libre.
Très ouvert.
Très ouvert. Mais nous, dans cette thérapie, il y avait des moments de prière obligatoires tous les matins. Donc, bien sûr, c'était un peu sous un institut catholique. Mais j'ai trouvé que... le créateur de
promesse de vie?
Non, de cette le maison centre. De thérapie avait une grande ouverture d'esprit. Je ne le voyais pas comme un prêtre que j'avais toujours vu ici, mais juste comme un être humain qui
abordable,
avait
accessible.
Voilà, qui avait une connaissance de Dieu et qui ne se prenait surtout pas pour Dieu et qui était capable lui-même d'être honnête envers lui-même et de discuter avec nous de ses propres j'ai envie de dire péchés, de ses propres défauts de caractère. J'ai apprécié ça. Et la troisième étape, je vais m'arrêter là, les autres sont moins importantes pour ce que je vis aujourd'hui, c'est nous avons décidé de confier notre vie et notre volonté aux soins de Dieu tel que nous le concevons. Donc moi, le Dieu que je concevais, c'est le Dieu, Dieu le Père,
Dieu le Fils,
Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc voilà, 3 mois d'abstinence, diplôme, de retour en Martinique, tout va bien. Je vais prier donc dans les églises catholiques régulièrement, mais je vis l'abstinence. Ça veut dire que donc, j'ai des envies de consommer.
Oui.
Mais en thérapie, on m'a donné des outils pour ne pas aller quand on a envie. Le premier outil, c'est appel avant. Allô, oui, un tel, j'ai envie de consommer. Bon, attends, bouge pas, je viens te voir, clac, clac. Oui, mais tu
on
sais,
parle,
souviens-toi de la dernière fois où t'es allé consommer, qu'est-ce que ça t'a procuré, clac, clac. Ça, ce sont les outils. Mais l'envie est là. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, vivre avec cette envie-là et ne pas y aller. C'est ça, l'abstinence. Et le programme m'a appris que je pouvais rechuter. Parce que dans le programme, ils nous disent, quand vous allez rechuter, ne faudra pas désespérer.
D'accord.
Et que souvent, la rechute est le point de départ définitif de bon rétablissement. Voilà.
Voilà.
Bon, moi, j'ai beaucoup œuvré à Promesse de vie. J'ai donné une année. J'ai écouté beaucoup de mères. J'ai accueilli beaucoup de toxicos chez mes parents même. J'ai beaucoup aidé avec cet ami Alexis. Ça m'a beaucoup apporté. Énormément parce que en aidant, ça me permettait moi-même de combattre mes envies. Pourquoi ? Parce que quand j'avais une grosse envie de consommer et puis que j'avais une maman en pleurs, de l'autre côté du téléphone, « Ah, ça fait 3 jours que mon fils est parti, il a volé mon chéquier, patati et patata. » je me disais, ça me donnait le courage de pas aller consommer au moins ce jour-là. Après, j'ai œuvré. Grâce à Dieu, j'ai eu la chance de monter une société de production audiovisuelle où j'ai fait un documentaire qui s'appelle L'Enfer du Paradis, qu'on a tourné sur la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, avec plein de frères comme moi-même qui avaient les mêmes problèmes et on témoignait de notre parcours. Et on était tous dans une période d'abstinence. Et puis, j'ai eu au-delà de mes rêves, au-delà de mes prières. Donc, je me suis marié, j'ai eu une entreprise florissante. Ce documentaire est parti en festival un peu partout dans le monde, même en sélection officielle au Festival de Montréal, où j'avais connu mon premier salut. Et j'ai tout eu. Une femme charmante, j'ai une petite fille. Je me suis marié devant les hommes. C'est vrai que là encore, j'ai tout vu. Je me suis acheté un bateau que j'ai appelé Merci Bon Dieu. Mais le cœur n'y était plus.
C'est-à-dire
que le vieux DJ refaisait surface.
Mm-hmm. L'orgueilleux, le prétentieux.
Voilà,
etc.
C'était plus grâce à Dieu, c'était grâce à moi, c'était foutement fort.
L'humanisme.
Est-ce que mon fin, foutement des bons l'idée. Et j'ai tout perdu. En une semaine, j'ai tout perdu. Parce que j'ai reconsommé, j'ai rechuté. Mon épouse n'a pas, mon ex-épouse n'a pas accepté. Puis c'est même pas ça, c'est comme, comment ça s'est passé? Un soir, elle me dit, si tu continues comme ça, je vais chez ma mère. Et l'orgueil qu'une femme, alors que je rentre après un week-end de consommation, au lieu de me faire tout petit, au lieu, j'avais déjà la chance de ne pas trouver la maison vide. Quand elle m'a dit ça, j'ai mal pris, je lui ai dit non. C'est moi qui pars, toi tu restes ici, c'est moi qui pars. Je suis parti, j'ai bu, j'ai fumé, je suis même plus retourné, j'avais des salariés, je me suis plus occupé de ma société. J'ai tout perdu. En un mois, j'ai commencé à errer. Mon bateau, j'avais plus d'argent pour mettre de l'essence dedans. On était qu'à rouler en gros l'auto à 4 litres d'essence, mais il fallait monter freiner dans la station. Pour voir si mon patinier camarade, et regardez, la G 30 euros, ben, moi, pour 10 euros d'essence, 15 euros de consommation de crack, et puis, 2 euros de briquet, et 2,50 € de cigarette. Et puis, j'ai rencontré deux personnes qui m'ont dit, Didier, voici un billet d'avion, pars parce que tu es en train de dépérir. Je suis parti, je suis revenu, j'ai beaucoup consommé, le frère qui est là.
Oui, tu peux, il peut
venir. Jean-François.
Justement, Jean-François est avec nous. Jean-François, déjà, on va lui dire un bonjour parce que, apparemment, Didier n'est pas sur le. Non, déjà, il va nous dire bonsoir, hein.
Bonsoir.
Bien fort, Jean-François, bien au micro.
Bonsoir, et la radio.
D'accord, ok.
Jean-François, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup consommé.
Oui.
Ça fait deux fois que, je rencontre Jean-François depuis que je ne consomme pas. Et que lui non plus, il ne consomme pas. Donc, on avait l'habitude de consommer dans un ghetto où on ne se faisait, enfin, un ghetto à air libre, où on ne se faisait aucun cadeau, ni les uns ni les autres. Et c'est fou parce que ce soir, en venant ici, je suis allé le chercher, puis je lui ai dit, que jeudi, il m'a qu'à venir chez Chéo pour nous aller écouter la parole de Jésus.
La parole de Jésus.
Et donc, pendant ces années de retour, j'ai continué à descendre, j'ai consommé.
Là, mais tu pars de métropole, là.
Au Canada. Toujours au Canada, oui. Toujours au Canada à chaque fois. Donc, j'ai fait 3 thérapies, hein. Je suis allé vite, mais je suis reparti 3 fois. 2 autres fois après la première, refaire des thérapies. J'avais un soulagement. 1 mois, des fois 3 mois. Mais toujours dans l'abstinence. Ça veut dire que pendant 1 mois, je luttais avec mes envies de consommer.
Qui finançait ça? Tous tes parents? Tes parents finançaient ces déplacements?
Oui.
D'accord, ok. On t'écoute alors.
Mes parents ont financé, mais à un moment, j'ai eu une rechute où moi-même j'ai financé parce qu'à ce moment-là, ça allait bien pour moi. J'avais mon entreprise, tout allait bien. J'avais pris 1 mois pour me refaire. Et donc de consommation en consommation en consommation, je me suis retrouvé dans les ghettos. J'ai tout perdu.
Femme, enfant, tout ça.
Femme, enfant, maison, société, tout. Maman, tu n'as pas 2,50 € pour que j'achète un paquet de cigarettes, s'il te plaît?
Ta maman t'a donné les 2,50 €.
Elle m'a donné les 2,50 € quand Maman, tu n'as pas 10 euros, il faut que j'achète quelque chose pour ma fille, et patati, et patata, clac, 10 euros. Je n'ai pas même acheté cigarette, je n'ai pas prémandé une cigarette pour monter faire 100, pour monter consommer, clac, là. Parce que j'ai acheté 10 euros, clac. Donc, mais c'est une vie que je menais malgré moi. J'avais pas envie de mener cette vie-là. Ce n'était pas moi. Mais je la menais, je vivais cela malgré moi. Et puis, un jour, j'ai une voisine qui vient me voir et puis, comment ça va? Je dis, ça va pas. J'ai l'impression que, c'était ma croyance du moment, j'ai l'impression qu'on m'a fait du mal. Pourquoi je fais quelque chose que je n'ai pas envie de faire et je ne peux pas ne pas le faire? Et puis, le lendemain, je trouve une lettre. Et dans cette lettre, elle me dit, quel que soit le mal qu'on t'a fait, même si c'est le diable lui-même qui t'attaque, au nom de Jésus de Nazareth, tu as autorité sur ces choses-là. Alors, je me retrouve un soir à consommer, puis je me suis dit, j'ai repensé à cette lettre-là.
Ah oui?
Et puis j'ai dit, au nom de Jésus de Nazareth, si tu existes, sors-moi de là. Comme par hasard. Mais je savais que c'était pas un hasard. Parce qu'il a répondu tout de suite. Je retombe sur quelqu'un qui, 2 semaines auparavant, m'avait dit, j'ai un ami qu'on appelle Alain. Clac, clac. Si tu as des problèmes, tu pourrais en discuter. Il a déjà vécu la même chose que toi, tout ça. Didier, avant je faisais aussi des photos dans des magazines. Didier, j'ai une photo de toi dans un magazine. T'es vraiment loin de ce Didier que j'ai connu, Didier.
Ah oui.
Puis je lui dis, je te rappelle dans 1 heure de temps. Oui. Il était 9h du soir. Je l'ai rappelé à 4h du matin et puis il m'a fait venir chez Alain, que tu connais.
Oui.
J'ai dormi là. Mmh. Ah oui, mais ma voiture avait plus de fusible. J'ai pas compris comment je suis arrivé. J'avais du produit. Je me disais à chaque arrêt de bus que j'allais m'arrêter fumer, Et puis je me suis retrouvé au pied de chez Alain, avec la pipe dans ma voiture, le crack dans ma poche. Et puis je me suis dit, mince, j'ai même pas eu le temps de fumer. J'ai jeté le crack, j'ai gardé la pipe. Et en me douchant, j'ai été reçu comme un prince. Je sentais après 5 jours. Je sentais. J'ai pas compris comment ma voiture est arrivée là. Je n'avais pas de fusible, donc.
Pas de lumière.
Non, pas de lumière. J'avais pas d'eau dans mon radiateur.
Ah, d'accord, ok.
Je n'avais pas d'eau. Le ventilateur ne tournait pas. Il y avait plus d'eau. Normalement, mon joint de cul là, c'était censé être brûlé. Je me suis réveillé le lendemain et puis. J'ai vu Alain et puis il m'a dit, quel que soit ton problème, ici il y a la solution. La solution c'est Jésus. Il m'a fait faire une prière avec lui. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu envie de consommer. J'avais une proposition de monter une entreprise, de représenter une société présente sur la métropole en Martinique, Guadeloupe, Guyane, avec leur financement. Ils étaient à 1 semaine. De venir en Martinique signer le contrat avec moi.
Ouais.
En 1 semaine, Dieu a totalement bouleversé ma vie. 20 ans de cigarettes. Arrêté le jour de mon baptême. Parce qu'en très peu de temps, je lisais la Bible. Hein. Je t'avais dit, j'avais lu Job en 2000.
Oui.
Mais depuis ce moment-là, la Bible est devenue un autre livre pour moi. La Bible parle de moi.
Ah oui.
Elle ne parle pas de Jean il y a 2000 ans. Ah. Elle parle de moi aujourd'hui, de ce que je vivais aujourd'hui.
Ah ouais.
Et j'ai découvert une communauté. Des gens qui, j'ai envie de dire, qui ne sont pas catholiques, c'est un jeu de mots. Mais qui étaient beaucoup plus proches de ce que je suis.
Ah ouais.
Là où je vais prier aujourd'hui, quand je ressors de là avec un feu que je n'avais jamais eu
expérimenté
avant. Donc malgré mes préjugés, parce que j'en avais, malgré mes préjugés, oui, mais je me suis déjà fait baptiser. Baptiser comment? Le baptême d'aspersion. Et puis c'est vrai que j'ai lu, je me souviens plus trop où, Alain m'a fait lire, moi je voulais ce même baptême, le baptême de Jésus, parce que
tu voulais t'identifier à Jésus.
J'ai pas encore, c'est la première fois que je témoigne tout ça.
Oui.
J'ai pas encore trouvé les mots pour expliquer ce que je vis. Parce que depuis là, j'ai déjà une deuxième structure. Parce que depuis là, l'harmonie, hein, y a pas, je parle pas d'amour, mais l'harmonie avec mon ex-femme est revenue. Donc on peut très bien discuter. Je la vois comme une amie. Aujourd'hui, avec ma fille, je suis devenu beaucoup plus responsable, productif. Aujourd'hui, j'ai des bureaux. Aujourd'hui, de nouveau, je fais du chiffre d'affaires. Je suis capable de me réveiller à 5h du matin, de faire un footing, de faire un petit déjeuner, d'être au bureau à 7h30, d'être productif, d'aller prier 3, 4, 5 fois par semaine, autant que possible. Et aujourd'hui, donc, je vis une vie différente. Quand je lis la Bible me parle différemment, clairement. Je n'avais jamais vu que c'était un livre qui pouvait parler clairement. Donc, c'est clair que j'ai eu beaucoup de questions. Alors, depuis ce baptême, je n'ai plus non plus refumé une cigarette. 20 ans de tabagisme. Pour moi, c'était le plus dur. J'avais déjà vécu abstinence de drogue, mais jamais d'abstinence de cigarette. Jamais d'abstinence de sexe. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un vœu à Dieu. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas les envies. Je ne combats pas. Et il n'y a pas longtemps que j'ai osé, parce que j'ai compris ce qui m'est arrivé, prononcer le mot « délivrance totale ». Et définitive. Parce que c'est ça que j'ai eu au nom de Jésus. Voilà la grâce que j'ai eue. Et Dieu m'élève. Alors, c'est vrai que j'ai du mal à témoigner. À chaque fois, on me propose de témoigner. J'ai du mal à témoigner parce que j'avais déjà témoigné. Je m'étais déjà mis au devant, dans des journaux télévisés, dans le documentaire que j'ai fait. Et beaucoup de gens me connaissent sur la Martinique. Et quelle tristesse ça a été pour moi
de rechuter
et puis de voir le regard de certaines personnes. Et il faut savoir qu'un toxicomane fait souffrir des gens autour de lui, sa famille. On dit en règle générale qu'il y a au moins 20 personnes qui souffrent directement. Mais c'est lui qui souffre le plus. Et souvent on est tellement orgueilleux. Et avec ce travail que la drogue fait sur nous, notre souffrance on ne la monte pas. On préfère envoyer balader les gens qui nous aiment. D'ailleurs, on s'isole de tous ceux qui nous aiment. Et aujourd'hui, j'ai compris que ce que je voyais comme un produit est beaucoup plus qu'un produit. C'est vraiment l'œuvre du diable. Donc, je me suis pas battu contre un produit. Je me suis juste attaqué à Satan lui-même au nom de Jésus-Christ parce que j'ai compris qu'au nom de Jésus-Christ, j'avais cette autorité-là sur lui. Et depuis qu'il a quitté ma vie, je me suis rendu compte qu'il est parti avec tout ce que Dieu n'aime pas. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça m'arrive encore des fois des mensonges. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais il y a tellement d'autres choses que je ne commets pas que aujourd'hui je vois cette délivrance, je vis cette délivrance. Et puis j'ai envie de la partager. Donc j'ai fait toutes sortes de techniques de thérapie à Montréal, comportementaliste, confrontation, semi-confrontation. J'ai fait une année et demie de psychanalyse ici en Martinique. Alors j'ai beaucoup de respect pour toutes ces choses.
Pour les psychologues, pour les médecins.
Voilà, parce que c'est des gens qui ont des convictions et c'est des gens qui sont convaincus qu'ils font le bien pour leur prochain. Alors, ça m'a aidé à comprendre l'être humain, mais dans tout ce qu'il a de mauvais. Alors que Jésus m'a appris à connaître l'être humain dans tout ce qu'il a de bon. Et aujourd'hui, mais le DJ qui vit, Jean-François, quand il m'a revu il y a 2 jours, il m'a appelé Pétillant. Parce que Pétillant, c'était mon nom dans le ghetto. Mon prénom, c'est Didier. Et comme le Didier est Pétillant, donc il m'a appelé Pétillant. En fait, dans ce geste du baptême, le même baptême que Jésus a vécu, Pétillant a été crucifié. Et Didier de Jésus est né. Voilà.
Tu as dit quoi, Jean-François?
Tu veux qu'on m'appelle Malone, c'est Jean-François.
Tu t'appelles comment? Malotte?
On m'appelait Malone. Mais maintenant, c'est Jean-François qu'on m'appelle.
Ils sont changés. Donc on va parler avec Jean-François tout à l'heure.
Voilà, donc voilà ce que je voulais témoigner. Et que aujourd'hui, quand ça m'arrive de parler à quelqu'un de Jésus, j'ai un petit sourire en coin. Pourquoi? Parce que je me souviens que des gens étaient déjà venus me parler de Jésus. Et je les avais pris pour des fous, les fous dont on parlait au début de notre discussion. Je les avais pris pour des fous, pourquoi ? Mais aujourd'hui, je comprends. Je comprends que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui ne peut pas comprendre que moi, je lui dise, quand il me voit, aïe, 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 mais DJ, mais il y a quelque chose, il y a une lumière dans ton regard, mais tu as quoi aussi, mais... Ah ben oui, c'est Jésus qui m'a donné tout ça. C'est parce que c'est plus moi, c'est Jésus qui vit en moi.
Mais quand tes parents te voient maintenant, est-ce que tu leur dis que c'est Jésus qui a fait cette transformation?
Ma mère est venue il n'y a pas longtemps à une des réunions. Ma mère a toujours prié. Donc, elle est convaincue que c'est Jésus. Mais il faut savoir que dans le monde, Jésus, il a amené à plusieurs sauces. Que je reçois, je t'ai entendu une fois prêcher, et moi je sais reconnaître. Aujourd'hui, avec ce que j'ai en moi, l'Esprit de Dieu en moi me permet de reconnaître l'Esprit de Dieu en général partout où il est. Oui. Qu'il soit en toi, qu'il soit dans mon frère Alain, qu'il soit dans celui qui vient me demander si je peux pas le dépanner de 2 euros et qui reste discuter avec moi pendant 30 minutes parce que je lui explique qu'il y a pas longtemps j'étais dans la même situation que lui. Partout aujourd'hui je sais reconnaître l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui j'ai assez encore aujourd'hui de le terme c'est foi. Assez de foi pour laisser Dieu me conduire. Toutes les fois où je croyais que c'est moi qui avais l'affaire, toutes les fois où c'est moi qui prenais le contrôle de ma vie, j'ai vu où ça m'a amené. J'ai vu où ça m'a amené. Alors aujourd'hui, et toutes les fois, j'ai eu le temps de faire l'expérience, toutes les fois où j'ai laissé Dieu gérer ma vie, donc je lui donnais la première place.
Ah oui.
Ça allait au-delà de mes rêves. Aujourd'hui, je vis ce qu'on appelle la paix et la sérénité de Dieu. J'ai passé une journée difficile au niveau professionnel parce que j'ai eu des complications, parce que les choses ne se sont pas passées comme je voulais. Mais ce qui me réjouit ce soir, c'est que je sais que je suis convaincu que les choses se sont passées comme Dieu voulait. Et moi, l'important, c'est juste ça. Tant que le soir, quand je me couche avec cet état d'esprit. Quel que soit ce qui s'est passé aujourd'hui, même si ça n'a pas fait mon affaire, mais du moment où je reste convaincu que c'est la volonté de Dieu et que Dieu m'aime plus que moi-même, je ne suis capable de m'aimer encore aujourd'hui, que Dieu veut m'éviter
les problèmes,
plein de problèmes, du moment où je suis convaincu que ce qui s'est passé de la journée était la volonté de Dieu à mon égard, je n'ai besoin de rien d'autre si ce n'est que de le remercier et que de le louer.
D'accord. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Didier. Donc, c'était vraiment fort ton témoignage. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver peut-être une place quelque part en Martinique pour témoigner, pour donner gloire à Dieu. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui t'écoutent et qui sont dans des situations pas trop faciles comme toi tu l'étais et que ton témoignage sera de quoi les aider. Merci beaucoup, Didier.
Ben, moi, je pense que si mon témoignage sert à ça, c'est ne serait-ce qu'une seule personne qui écoute mon témoignage et que ça lui donne envie de rencontrer Jésus. Comme moi, je l'ai rencontré, même avec le doute, même en le mettant au défi. Jésus, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Et puis maintenant, s'il le faut, si ça sert juste à ça, ben je pense que ça sera ma façon. Je ne pourrai jamais rendre à Jésus ce qu'il m'a donné. Mais Jésus est passé à travers des hommes qui avaient un témoignage, qui m'a touché, qui avaient une expérience, qui m'ont parlé de Jésus, qui continuent à me parler de Jésus. Et donc, si moi, aujourd'hui, je peux juste intéresser quelqu'un à se tourner vers Jésus, ben, j'aurais remis déjà, j'ai envie de dire, le principe que d'autres hommes m'ont donné, je l'aurais remis, tout en sachant que dans toute ma vie, je pourrais jamais donner à Jésus ce qu'il fait pour moi aujourd'hui.
Donc, on sent en toi une certaine joie, une grande assurance d'ailleurs, mais non seulement l'assurance, mais on ressent la joie et la détermination d'aller loin avec Jésus-Christ. Est-ce que je me trompe en disant ça?
Après, on rentre dans un autre domaine parce que j'ai approfondi la parole. Des fois, le soir, quand je suis couché, j'ai des rapports, des contacts avec l'Esprit de Dieu. Donc,
Oui, je sais que quelque part je suis appelé à quelque chose, mais il faut laisser ça mûrir, il faut laisser ça grandir, afin que j'ai la conviction de quoi exactement. Mais oui, j'ai cette ferme assurance que Dieu n'est pas venu me chercher là où j'étais. Dieu n'est pas en train de me donner tout ce qu'il me donne devant les yeux de tous les hommes qui me connaissaient pour rien. Ça, j'en suis convaincu.
D'accord. Donc, en tout cas, Didier, on tient à te remercier. Et puis, juste, je voudrais que, juste que tu adresses un mot à tous ces jeunes qui nous écoutent, donc qui semblent être liés par le crack, la drogue, la marijuana, ou autre chose. Ça peut être des problèmes. Et puis, donc, on ne s'en sort pas. Juste un petit mot d'encouragement pour ces personnes-là.
Oui, alors, c'est vrai que les hommes aujourd'hui, la façon de voir ce type de... Donc, déjà, pour eux, c'est une maladie. Hein. Ça s'appelle la maladie de la dépendance. Et ils disent que c'est une maladie qui aujourd'hui est incurable, mais que la progression peut être arrêtée et on peut devenir abstinent. Alors ça, c'est ce que les hommes ont à proposer. Tant que moi, j'étais resté à leur niveau, donc au niveau des hommes, c'est que ça que j'ai, qu'à ça que j'ai eu droit. Mais moi, j'ai pas vécu que ça. J'ai vécu aussi ce qu'on appelle le gros poil. J'ai vécu aussi la dépression. Vous imaginez, j'étais quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec les hommes politiques. Être passé du statut d'avoir une reconnaissance sociale. Je prenais mon bateau quand je voulais. J'allais à Sainte-Lucie en Guadeloupe. J'ai fait tous les tournois de pêche de la Caraïbe. Sortir de cette situation-là, la situation, maman, est-ce que tu as 2,50 € pour moi? Et garçon, la diantaf m'en main. C'est une situation très difficile. Je veux dire que, en dehors même du problème
l'orgueil
de la toxicomanie,
brisé, oui.
L'orgueil, mais il y a la dépression derrière tout ça. Il y a plein d'hommes qui, sans même vivre la toxicomanie, et de femmes vivent des séparations. C'est des choses de terribles. Ouais. Qui vivent des changements profonds de situation dans leur vie. Situation professionnelle. On a des traites sur le dos. On a des enfants à qui on a envie d'offrir le meilleur. Et puis, du jour au lendemain, on n'est plus capable d'assumer financièrement. Donc, toutes ces choses-là m'ont plongé, moi. Je sais pas pour les autres, mais m'ont plongé dans un désespoir. Qui fait que moi, la seule... Et je vous dis... psychanalyse, je me suis toujours retourné vers les hommes. J'ai toujours voulu m'en sortir.
Oui.
Mais Jésus a la réponse à tous ces maux. Je suis quelqu'un de très rationnel et de très cartésien. Hein.
Oui.
Encore aujourd'hui, quand je dis Jésus, ça me fait sourire parce que il y a un petit vieil homme des fois qui a envie de se moquer du Didier qui est ressuscité là aujourd'hui. Eh ben oui. C'est au nom de Jésus que aujourd'hui j'ai cette paix. Cette assurance, et je rentre même pas dans le détail de ma journée, hein, parce que rien dans ma journée, si ce n'est Jésus, ne s'est fait pour que ce soir, je sois en paix, en sérénité et dans la joie.
Merci beaucoup Didier, et que vraiment, que Dieu te bénisse et que Dieu répande sa grâce sur toi. Merci beaucoup Didier.